Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'une constellation, non pas d'une étoile, mais d'un amas d'étoiles. Il s'appelle les Pléiades, on l'appelle aussi M45 dans le catalogue de Messier. Les Pléiades se trouvent près de l'épaule du Taureau, la plus grande constellation à droite de la ceinture d'Orion. Chacune d'entre elles est 100 fois plus lumineuse que le Soleil. Il est possible de voir au moins 6 de ces étoiles à l'œil nu, depuis n'importe quel point du globe. À cause de sa luminosité variable, qui reste encore inexpliquée, la 7e étoile n'est pas toujours visible. Certaines personnes dotées d'une vue exceptionnelle seraient capables de voir sans l'aide d'un télescope jusqu'à 20 étoiles dans cet astérisme qui compte plus de 1000 étoiles. Les Pléiades, dont le cœur mesure pas moins de 8 années-lumière de diamètre, sont constituées pour l'essentiel de géantes bleues qui se sont formées il y a 100 millions d'années. Les astronomes estiment que cette constellation survivra encore 250 millions d'années. Dans la mythologie grecque, les Pléiades sont les 7 filles du titan Atlas et de l'océanide Pléionée. Ce sont les sœurs des Iades. Elles se nomment Maïa, l'aînée, et mère d'Hermès, Alcyone, Astérope, Séléno, Électre, Taïgète et Mérope, la plus petite. Je cite la mythologie grecque. Au lever des filles d'Atlas, les Pléiades, on doit commencer la moisson, à leur coucher, le labourage. 40 nuits et 40 jours, elles restent cachées pour ne reparaître que quand l'année a terminé son cours et qu'on commence à aiguiser les faucilles. Les Pléiades sont donc tout à fait liées à l'agriculture et au rythme de l'année. C'est sans doute pour ça qu'on les trouve dans les plus anciennes représentations des étoiles qui remontent à la préhistoire. Une bonne occasion de vous parler de la façon dont les hommes préhistoriques observaient les étoiles. Selon Alexander Marchak, un paléontologue spécialiste de l'art pariétal, les indentations gravées sur un os d'aigle mis au jour dans l'abri Blanchard dans la région du Périgord et datant d'environ 32 000 ans correspondraient à des notations lunaires. Leur nombre et leur position pourraient être mis en rapport avec le cycle de la Lune. Selon Chantal Jaeg-Volkiviez, l'ornementation tout à fait spécifique des grottes de la France lorsque celle-ci correspond par exemple à des solstices serait un autre élément significatif. Cet auteur considère même que les peintures de ces grottes pourraient être des cartographies célestes. Pour elle, la scène du fond du puits de la grotte de Lascaux, qui date d'environ 17 000 ans, supposerait des connaissances astronomiques. Elle propose d'y reconnaître une représentation des Pléiades et du zodiaque. Je cite Chantal Jaeg-Volkiviez. La visualisation de la lumière solaire sur la porte d'entrée de la grotte pendant 50 minutes environ lors du coucher solaire au moment du solstice d'été confirme cet éclairage complet de la rotonde pendant cette période du solstice au temps de la création de l'œuvre. Cet éclairement permettant même un travail en pleine lumière presque pendant une heure, pendant quelques jours au début de l'été. Mais aussi la lumière de la pleine lune le matin lors du solstice d'hiver. La signification profonde de ces cartographies est évidemment inconnue. Elle pourrait être d'ordre religieux ou calendaire, marquant les grandes périodes de migration ou de chasse par exemple. Évidemment, il nous manque des signes décisifs et ces hypothèses sont contestées. Mais le manque d'indices archéologiques explicites ne signifie aucunement que l'observation du ciel ne jouait aucun rôle chez les hommes préhistoriques. Celle-ci est bien attestée dans les cultures de chasseurs-cueilleurs contemporaines comme par exemple chez les aborigènes d'Australie. À partir du néolithique, les sources se multiplient, même si leur interprétation demeure délicate. La mise en œuvre de calendriers, ce qui témoigne de connaissances certaines de l'évolution du ciel, revêtait pour ces civilisations agraires une importance vitale. Évidemment, en agriculture, c'est important d'avoir un calendrier et de pouvoir prévoir le rythme des saisons. Quand on peut anticiper les événements annuels ou saisonniers, on peut planifier. On attachait ainsi aux causes possibles des phénomènes célestes une interprétation religieuse. L'émergence de pratiques agraires s'est peut-être accompagnée de pratiques de divers cultes célestes. On appelle ça les cultes uraniens, qui se rapportent au ciel. Et avec cela, de l'astronomie et de l'astrologie, les deux disciplines ayant longtemps été confondues. D'innombrables sépultures de cette époque sont orientées dans une direction du ciel particulière. Parmi les découvertes archéologiques associées à une pratique d'un calendrier, on peut citer les cônes d'or rituels mis à jour en France et en Allemagne méridionale, interprétés comme des couvre-chefs de prêtres d'un culte solaire. Et on peut aussi citer le disque de Nebra. Le disque de Nebra, c'est un disque de bronze portant des motifs en or. Il pèse à peu près 2 kg, mesure 32 cm de diamètre. Il a été mis au jour illégalement par des fouilleurs clandestins en juillet 1999 à Nebra-sur-Orne. une trust en Allemagne, avec d'autres objets constituant un dépôt cultuel. Il daterait d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Il est considéré comme la plus ancienne représentation connue de la voûte céleste. Le disque de Nebra se présente sous la forme d'une plaque circulaire de bronze, sur laquelle se détachent des motifs en plaques incrustées d'or, des motifs qui sont supposés être en partie des corps célestes. On voit un croissant, qui représente probablement la lune, un disque central, qui peut être le soleil, ou peut-être la lune, la pleine lune, un groupe de 7 points qui serait la constellation des Pléiades et deux autres motifs en arc. Il pourrait s'agir d'une représentation du ciel pour une personne qui se serait trouvée il y a 3600 ans en Allemagne, observant l'apparition des Pléiades. Ça pourrait être considéré comme la représentation la plus ancienne de la voûte étoilée. L'archéologue allemand Allard Meller la qualifie de « ciel étoilé automnal ». En effet, au solstice d'été, à Nebra, le soleil se couche derrière la montagne Brocken. Ce fait non négligeable permet d'imaginer une orientation possible du disque lors de son utilisation. Un arc de 82 degrés présent sur le côté droit, ainsi que la trace d'un autre arc disparu, placé symétriquement côté gauche, pourrait figurer l'écart entre les points de l'horizon où le soleil se lève et où il se couche, au solstice d'été et d'hiver. La valeur de cet angle correspond relativement bien à la latitude du lieu de découverte. Ça permet d'imaginer un emploi possible du disque en le plaçant à l'horizontale, en orientant alors l'arc latéral vers l'est ou vers l'ouest pour repérer les levers et les couchers du soleil sur l'horizon au moment des équinoxes. Un autre caractère remarquable du site de Nebra, c'est qu'au solstice d'été, le soleil se couche derrière le sommet massif du Harz, sur le mont Brocken. Ce sommet, c'est la plus haute partie nord de l'Allemagne. Il est situé à peu près à 80 km au nord-ouest du site. Ce disque aurait pu servir pour l'agriculture, car si le groupe d'étoiles représentait, c'est bien les Pléiades, elles peuvent en effet accompagner la nouvelle lune au-dessus de l'horizon vers la mi-mars, à peu près au moment où on doit faire les semailles. Et ça se reproduit les soirs de pleine lune vers la mi-octobre, qui peut marquer la fin des moissons. On dénombre aujourd'hui dans cet amas à peu près 3000 étoiles, dont une douzaine sont donc visibles à l'œil nu, mais 6 si vous avez une vue normale. Il s'étend sur 2 degrés, c'est l'équivalent de 4 fois le diamètre apparent de la pleine lune. La densité de cet amas est donc relativement faible par rapport à d'autres amas ouverts comme par exemple l'amas d'Hercule. Grâce à la forte magnitude de quelques étoiles qui le composent, cet amas est donc visible à l'œil nu dans le ciel d'automne. Il est situé dans la constellation du Taureau, à proximité de l'axe formé par les étoiles Sirius, la ceinture d'Orion et Aldébaran. On distingue assez rapidement 5 étoiles, et puis au fur et à mesure que l'œil s'accommode, d'autres étoiles apparaissent. Ainsi, jusqu'à 10-11 étoiles sont visibles si les conditions météo sont bonnes. Avec des jumelles ou un télescope, avec un champ assez large, on peut observer bien plus d'étoiles, bien sûr. C'est de cette manière que l'amas donne le plus de satisfaction. Avec des télescopes plus puissants ou avec un champ plus étroit, vous ne verrez qu'une seule partie de l'amas qui est quand même assez étendue. Si vous êtes lefto, vous pouvez dès à présent observer l'amas des Pléiades. Il se lève actuellement vers 4h du matin. Et puis cette année, vous avez de la chance parce que l'amas des Pléiades est en conjonction, ou en tout cas est tout proche, de Jupiter et Mars. L'amas est entouré d'une nébuleuse. Sa découverte s'étale sur plusieurs dizaines d'années, la partie la plus brillante de cette nébuleuse ayant été découverte le 19 octobre 1859 par Ernst Wilhelm Tempel autour de l'étoile Merope. Les premières photos de l'amas révèlent un nuage de poussière autour des étoiles. Cette nébuleuse réfléchit la lumière des étoiles situées en proximité ou à l'intérieur. En 1875, une extension du nuage est découverte autour de Maia. D'autres extensions sont observées autour d'Alcyone, d'Electre, de Célaeno et de Tegette en 1880. La structure complexe du nuage est finalement révélée par les frères Henry et Isaac Roberts entre 1885 et 1888. La découverte aura donc pris en tout près de 30 ans. L'amas des Pléiades est utilisé en astronomie pour calculer les distances dans l'univers. Comme l'amas est très proche de la Terre, sa distance est relativement facile à mesurer par la méthode de la parallaxe, par exemple, dont je vous ai déjà parlé. Une fois cette distance connue, elle a permis aux astronomes de tracer un diagramme de Hertzsprung-Russell de l'amas, qui comparé à ceux d'autres amas dont la distance était inconnue, a permis de calculer les distances. Alors revenons rapidement sur ce diagramme d'Hertzsprung-Russell. Il est souvent abrégé en diagramme HR. Le diagramme HR a été inventé autour de 1910 par Ejnar Hertzsprung et Henry Norris Russell. Hertzsprung est un astronome danois. Il a eu l'idée en 1905 de classer les étoiles de même type spectral en plusieurs classes de luminosité en fonction de leur température de surface. Le diagramme auquel il aboutit fut perfectionné par Henry Russell, un astronome américain à qui l'on doit de nombreux travaux sur la physique des étoiles, et qui l'amenèrent à établir une classification des étoiles en fonction de leur luminosité et de leur type spectral. Quand on positionne sur ce diagramme les étoiles connues, on se rend compte qu'elles ne se répartissent pas partout dans le tableau. Elles se regroupent en zones. Il y a une zone qu'on appelle la zone de séquence principale. C'est une bande diagonale qui traverse le diagramme du coin supérieur gauche, donc ça c'est les étoiles chaudes et lumineuses, au coin inférieur droit, les étoiles froides et moins lumineuses. La majorité des étoiles, y compris notre Soleil, se trouvent dans cette zone de séquence principale. Ces étoiles-là produisent leur énergie par la fusion de l'hydrogène et de l'hélium dans leur cœur. Il y a aussi la zone des géantes et des supergéantes. Ces étoiles sont situées au-dessus de la séquence principale, dans la partie supérieure droite du diagramme. Les géantes et les supergéantes sont des étoiles en fin de vie qui ont épuisé l'hydrogène de leur cœur et qui brûlent des éléments plus lourds, comme l'hélium par exemple. Elles sont très lumineuses, mais relativement froides en surface. Et enfin, une dernière zone marquée, c'est la zone des naines blanches, dans le coin inférieur gauche du diagramme. Ces étoiles sont les restes d'étoiles qui ont expulsé leur couche externe et qui ne brûlent plus de carburant nucléaire. Elles sont très très chaudes, mais elles sont peu lumineuses en raison de leur petite taille. Le diagramme permet donc de faire le lien entre la couleur d'une étoile, donc son type spectral, et sa magnitude absolue, sa luminosité intrinsèque. Et en comparant cette luminosité absolue de l'étoile avec sa luminosité apparente, on peut estimer la distance entre l'étoile et la Terre. Si on positionne les étoiles des Pléiades sur notre diagramme, ce qui est assez simple car on connaît à la fois leur magnitude absolue et leur type spectral, on remarque qu'une ligne presque parfaite se forme dans la zone des séquences principales. Ce qui permet, quand on compare ce diagramme des Pléiades à d'autres amas dont la distance est inconnue, de calculer les distances. D'autres méthodes peuvent aussi être utilisées pour étendre l'échelle des distances des amas ouverts aux galaxies et aux amas de galaxies. Finalement, la compréhension par les astronomes de l'âge et de l'évolution future de notre univers est influencée par leur connaissance de la distance de notre amas du jour, les Pléiades.